Bonsoir, province du Nord Kivu. Trois jours après les manifestations contre la MONUSCO, les activités socio-économiques ont repris timidement ce jeudi dans la ville de Goma. Aucune barricade n'est signalée sur les artères de la voirie où la circulation a repris. Cependant, les sources sécuritaires indiquent que la situation reste encore très volatile dans certaines villes comme Butembo, Beni et Uvira. Rappelons que ces manifestations sont consécutives, notamment au discours et appel hostile à la mission onusienne lancée ces dernières semaines par certaines personnalités politiques et groupes sociaux dans le pays. Pour en parler, je reçois dans ce studio Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir Kelly.
Kassim Diagne, représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO. Kassim Diagne, bonsoir.
Bonsoir, Kélir.
Vous êtes déjà très très nombreux à poser vos questions à nos invités avec nous dans cette émission. Claude Israël Mogekwa à Bukavu, au sud Kivu. Quelle est la réponse du gouvernement face à la demande du peuple sur le retrait immédiat de la MONUSCO? Paulin Sengagabo à Kisangani dans la province de la Tchopo. Combien des groupes armés la MONUSCO a déjà neutralisé depuis qu'elle est en RDC? À Goma, au nord Kivu, vous nous suivez sur la 95.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal Plus Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Quatrième jour des manifestations anti-MONUSCO dans quelques villes de la province du Nord Kivu, notamment à Beni, où les activités socio-économiques sont restées totalement paralysées ce jeudi. Les portes des commerces sont fermées et un dispositif sécuritaire est déployé dans tous les points chauds de la ville. Un reportage.
Les portes des commerces sont restées fermées pour cette journée, même les officines pharmaceutiques n'ont pas ouvert. Visible à travers toute la ville, les forces de l'ordre dégagent les barricades et libèrent ainsi la route pour une libre circulation de la population. Tôt ce matin, les barricades avaient été érigées sur plusieurs artères de la ville. Une centaine de manifestants venus de la partie ouest de la ville avaient envahi d'abord les avenues commerciales des Matongé avant de se diriger vers la base de la MONUSCO par les boulevards Niamouissi. Là, ils étaient heurtés au dispositif militaire de la police qui les ont empêchés de progresser. Ils se sont ensuite dispersés dans certains quartiers de la ville de Beni.
Merci Blaise Ndongala pour ce reportage. Monsieur le ministre Patrick Muyaya, je rappelle que vous êtes ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais. Les manifestations contre la MONUSCO se poursuivent dans quelques villes de la province du Nord et dans les provinces du Nord et Sud Kivu, même si la tension a un peu baissé, mais la situation reste volatile selon plusieurs sources sécuritaires sur place. D'abord, que pensez-vous de ces manifestations anti-MONUSCO?
Je pense que les manifestations en soi sont compréhensibles parce qu'il y a un sentiment de colère. Vous savez que la reprise des hostilités, notamment avec l'M23 soutenu par le Rwanda, est l'élément déclencheur de cette situation que nous déplorons aujourd'hui. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est que l'expression de la voix d'une partie de notre population soit clairement détournée, parce que nous pensons qu'au-delà de ceux qui voulaient effectivement manifester, il y a eu de la manipulation qui s'en est mêlée et qui a conduit à des dégâts que nous regrettons aujourd'hui. Et pour nous, pour ce qui nous concerne en tant que gouvernement, nous avons donné des signaux, nous avons lancé des messages d'apaisement, parce que je crois qu'à ce stade, le message est bien passé. Fort malheureusement, il y a eu des compatriotes qui sont décédés, mais aussi des casques bleus qui sont décédés durant ces 72 heures. Nous espérons que ces manifestations vont s'étasser parce que nous sommes déjà dans un dialogue, comme vous pouvez le voir ce soir ou l'écouter ce soir avec la MONUSCO, qui va nous permettre de transmettre les préoccupations de nos populations.
Est-ce qu'on a un bilan officiel à ce jour de ces manifestations?
Hier, nous en étions à peu près 20 morts, y compris les casques bleus de la MONUSCO, mais aussi les compatriotes qui sont tombés hier à Uvira et dans la tension. Il nous a été dit hier soir que malheureusement un casque bleu aurait tiré sur un autre casque bleu. On comprend la situation de tension dans laquelle ils vivent présentement. Il y a eu une soixantaine de blessés, mais il y a surtout des enquêtes que nous avons appelées de tous nos voeux qui ont été diligentées pour être en mesure de faire très rapidement la lumière sur les circonstances des différentes morts, mais aussi sur ceux qui se sont permis de piller, de vandaliser les sites de la MONUSCO. Il y a déjà une vague d'arrestations. Nous allons continuer de suivre avec les autorités provinciales du Nord Kivu pour nous assurer que justice soit faite rapidement.
Alors, plusieurs Congolais se posent la question de savoir, on a vu des images circuler, pourquoi la police et l'armée n'ont pas empêché les pillages et destructions dans les sites de la MONUSCO. Non,
je crois que les éléments, l'enquête nous permettra d'avoir un peu plus des détails sur comment les choses se sont effectivement passées sur terrain. Mais je crois que la journée de mardi, il y a eu un fort déploiement militaire très tôt, parce que moi-même j'ai suivi la situation très tôt au téléphone, parce que nous avons, nous, gouvernement, la responsabilité de protéger les personnels de la MONUSCO ainsi que les sites dans lesquels ils travaillent.
Lundi, ça n'a pas été fait.
Bon, écoutez, nous attendons les éléments d'enquête qui nous permettront d'avoir les détails de comment les choses se sont passées effectivement. Nous avions des indications qu'il était probable d'avoir, c'est pas la première fois qu'il y ait des mouvements à Goma, mais c'est peut-être la première fois que nous vivons de mouvements avec une telle violence. Peut-être que c'est la violence que nous tous, on n'aurait pas pu prédire, et l'intensité que cela a pris a peut-être pris de court, mais ces enquêtes nous permettront d'établir les responsabilités des uns des autres dans ces incidents.
Monsieur Kassim Diagne, chef adjoint de la MONUSCO, chargé de la protection et des opérations, c'est le même bilan que vous avez aussi du côté de la MONUSCO?
Tout à fait, c'est le même bilan que nous avons et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour m'incliner humblement devant la mémoire des disparus du côté des Congolais et Congolaises, mais également nos vaillants soldats qui sont tombés affreusement, de façon tragique, sous le coup des assaillants que j'appellerai tout simplement des bandes armées.
Beaucoup de Congolais pensent que ces manifestations sont l'expression d'un ras-le-bol des Congolais face à l'inefficacité de la MONUSCO à rétablir la paix dans les provinces en proie à l'insécurité due aux groupes armés locaux et étrangers.
Écoutez, moi je pense que nous sommes les premiers à reconnaître qu'il y a des insuffisances. Vous savez, nous sommes aux côtés des FARDC depuis des années. Nous avons évidemment beaucoup de regrets par rapport à la continuité de ces tueries que nous déplorons, que nous condamnons avec la plus grande fermeté. Mais j'aimerais aussi rappeler l'historique ici qui est important, parce que le devoir de mémoire. En 1999, lorsque la MONUC est arrivée, le prédécesseur de cette mission actuelle, nous étions sur 11 provinces. Et ces 11 provinces ont été, à l'époque, troubles, etc. Et en 2014, nous nous sommes retirés de 8 provinces sur les 11, avec des progrès vraiment réalisés, tangibles. Parce que la sécurité, c'est pas seulement neutraliser les groupes armés et puis partir. C'est aussi la stabilité, c'est aussi des institutions fortes de police, de justice, d'administration pénitentiaire. Donc il y a tout un volet et c'est ce que le Conseil de sécurité souhaite voir, c'est-à-dire une progression responsable, parce qu'on est aussi venu pour appuyer des gouvernements avec des institutions fortes, etc. Je rappelle aussi que lorsqu'il y a eu le découpage administratif qui a créé les 26 provinces, en 2020, nous étions sur 6 provinces, voyez-vous. Et avec le plan graduel de retrait, on s'est retiré en 2021 du Kasaï et en 2022 du Tanganyika. Donc, voyez-vous, nous sommes maintenant, et de la ville-province de Kinshasa, parce qu'il y avait également quelques poches d'insécurité qu'il fallait justement stabiliser. Et maintenant, on est sur 3 provinces. Je ne dis pas que c'est pour nous jeter des fleurs ou en tout cas nous taper sur le dos, mais pour dire que c'est la complexité aussi de ces 3 provinces qu'il faut regarder. Et c'est des situations extrêmement difficiles qu'on ne devrait pas minimiser. Nous ne les minimisons pas, mais nous pensons qu'il faudra aussi réfléchir très sérieusement à une approche compréhensive, parce que ce n'est pas seulement les questions de sécurité. Il y a des questions de gouvernance, il y a des questions de stabilité économique, il y a des questions d'autorité de l'État. Et tout cela demande un peu de patience et un peu de temps. Et avec le gouvernement, nous allons voir comment on peut faire pour résoudre ces problèmes.
Alors, il y a l'auditeur qui a posé une question au début d'émission, celle de savoir combien des groupes armés la MONUSCO a-t-elle déjà neutralisé depuis qu'elle est sur le sol congolais?
Écoutez, nous ne sommes pas ici dans un travail d'inventaire de statistiques, mais je peux vous dire, par exemple, il y a des zones dans l'Ituri, si vous allez aujourd'hui, les gens circulent librement. Ce qu'on voit, c'est peut-être le côté macro, mais regardons le côté micro. Et ce n'est pas seulement aussi le travail de neutralisation des groupes armés. Il y a tout le travail civil de la MONUSCO qu'il faudrait aussi magnifier ici avec le gouvernement, c'est-à-dire toutes les activités de cohésion sociale, la protection de l'enfant, le désarmement, qui est un volet extrêmement important, l'appui à la justice, aux enquêtes, etc. Donc, il ne faut pas voir seulement le côté sécuritaire de neutralisation, mais il faut regarder ça dans un ensemble de paramètres qui puissent permettre de faire des conclusions, si vous voulez, non émotionnelles.
Quatrième jour des manifestations aujourd'hui, anti-MONUSCO, certains mouvements sociaux accusent la MONUSCO d'avoir utilisé des armes à feu sur la population. Comment vous répondez à toutes ces personnes, hein?
Je voudrais dire ici que j'ai été en contact régulier depuis le début de ces événements avec nos forces, avec les commandants de secteur, avec le commandant de la force. Et je peux vous affirmer qu'ici, solennellement, la MONUSCO n'a pas tiré sur les foules. Maintenant, pour clarifier cette situation, comme le disait Monsieur le ministre, cher Patrick, nous allons mener des enquêtes et ces enquêtes nous permettront de savoir exactement d'où ces balles proviennent, parce que du côté de la MONUSCO, évidemment, nous avons un inventaire de nos armes, de nos munitions, etc. Et on a diligenté une enquête. Ce matin même, je me suis entretenu avec le commissaire de la police, avec les autorités provinciales, et nous allons faire ces enquêtes le plus rapidement possible avec l'auditorat militaire. Et je félicite d'ailleurs le gouvernement, le Premier ministre, l'ensemble des ministres pour avoir ordonné ou en tout cas autorisé que ces enquêtes puissent avoir lieu le plus rapidement possible.
Monsieur le porte-parole, vous avez annoncé des enquêtes pour établir les responsabilités. Ça sera des enquêtes conjointes avec la MONUSCO ou c'est seul le gouvernement qui mène ces enquêtes de son côté?
Bon, je ne sais pas les détails de comment elles vont se dérouler, mais je pense qu'elles seront conjointes parce que nous travaillons déjà conjointement avec la MONUSCO sur plusieurs sujets.
Elles n'ont pas encore commencé?
En tout cas, l'auditeur général déjà s'est saisi du dossier. Il faut peut-être lui reposer la question pour savoir qu'est-ce qu'il a été fait. Mais l'idée, c'est que cela se fasse vite pour très vite dissuader ceux qui ont été derrière et établir les différentes responsabilités.
Toute attaque...
Pour vous rassurer, les médecins légistes qui sont chargés de l'autopsie sont en route pour les différents endroits qui ont été identifiés.
Est-ce que la MONUSCO prendra part ou souhaite prendre part aux enquêtes?
C'est des enquêtes conjointes, ça a été décidé, le Premier ministre a donné des instructions, le ministre était là dans cette réunion, ça se fera conjointement.
Toute attaque dirigée contre les casques bleus de l'ONU peut constituer un crime de guerre, propos du secrétaire général de l'ONU, qui appelle les autorités congolaises à traduire rapidement les responsables en justice, même demande faite par le Conseil de sécurité de l'ONU. Monsieur le ministre, quelle est la réaction du gouvernement?
Mais écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, la première déclaration que nous avions faite, c'était à 10h lundi, quand les événements ont commencé. Nous avons été alertés et très vite, nous nous sommes retrouvés en marge du sommet de la CEAC avec Monsieur Diane à ma droite et le Premier ministre Samalou Koundé. Nous avons discuté en ce moment-là, nous avons communiqué, donné des signaux très vite. Parce que nous, la responsabilité première des installations de la MONUSCO de son personnel, comme je le disais tout à l'heure, dans l'esprit de l'accord qui nous lie, relève du gouvernement et de ces points de vue, nous ne pouvons pas lésiner. Et donc, nous espérons que les enquêteurs iront vite vers ce que nous escomptons et en ce moment-là, nous tirerons les conséquences. Et d'ailleurs, cela a été dit bien avant que le Conseil de sécurité ou que le secrétaire général des Nations Unies ne s'exprime.
Monsieur Diane, après tous ces événements enregistrés, la MONUSCO va-t-elle poursuivre ses engagements vis-à-vis des FRDC et même du gouvernement congolais?
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est dans des moments d'adversité que notre notre capacité de résilience est testée. Et je peux vous dire ici que, avec la plus haute hiérarchie des Nations Unies, du secrétaire général, à Madame la représentante spéciale, à moi-même, à tous les collègues, nous restons, nous travaillerons côte à côte avec les FARDC. Parce que, si vous voulez, ce que cet ennemi commun, invisible, cherche, c'est à nous diviser. Et c'est pour moi le lieu de rappeler ici que nous devrons nous concentrer sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est de combattre les groupes armés. Parce que voyez-vous, ces manifestations qui ont lieu dans les centres urbains, nous sommes en train, avec les FARDC, de ponctionner ou de vider nos réserves de force sur les théâtres d'opération pour venir sécuriser des lieux, qui c'est important évidemment. Mais il y a une conséquence, et il ne faudrait pas faire le jeu des groupes armés qui disent « voilà, ils sont partis, on va récupérer le territoire ». Donc, il faut savoir raison garder, il faut beaucoup de retenue, et en même temps, ces manifestations coûtent très cher à la vie sociale et économique. Voyez-vous, une ville comme Goma, qui est un carrefour économique important, pendant 48 heures, les activités économiques étaient paralysées. En même temps, il faudrait aussi se dire que les biens qui ont été détruits dans ces entrepôts, dans ces installations, c'est des biens qui vont être, qui devraient être légués au gouvernement en certains moments. Donc on est en train de détruire des biens publics, ce qui fait que d'ailleurs, je souscris entièrement au point de vue du ministre, que ces responsables doivent être poursuivis, parce qu'ils sont en train de détruire, à travers la MONUSCO, des biens qui appartiennent au gouvernement congolais.
Est-ce que ces manifestations auront une incidence sur les effectifs des casques bleus, monsieur Kassim?
Pas du tout. Les effectifs restent les mêmes.
Seront maintenus.
C'est le Conseil de sécurité qui les a autorisés.
La MONUSCO va garder ses positions partout où elle est,
tout
elle
à
se
fait.
Trouve.
Tout à fait. En concertation avec le gouvernement congolais. Et ça, c'est des plans militaires qui sont discutés entre spécialistes.
Monsieur le porte-parole, vous êtes d'accord avec la MONUSCO qu'elle garde ses positions malgré cette violence manifestée par la population vis-à-vis d'elle?
La MONUSCO est arrivée ici à l'invitation du gouvernement congolais. Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes liés par l'accord qu'on a librement souscrit. Et nous allons, dans le cadre de cet accord, continuer notre collaboration. Mais nous ne pouvons pas n'est pas prendre en compte la vie de nos populations. Parce qu'ici, la question principale, Madame Kelly, c'est la sécurité. Et ça fait 25 ans que ces problèmes persistent, alors que nous avions ouvert une fenêtre qui nous permettait de voir enfin la fin de cette situation, notamment avec notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est, la recrudescence de la sécurité, surtout la résurgence du M23 avec son soutien rwandais, fait que les populations sont des nouveaux exécrées. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait cette réaction de ras-le-bol par rapport à la MONUSCO, qui dispose non seulement des effectifs sur terrain, mais qui dispose aussi des moyens diplomatiques, parce que la MONUSCO, c'est la représentation du monde, du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo, et que les populations ont pensé que la MONUSCO pouvait davantage faire pour que la paix puisse revenir très rapidement. Il ne faut pas passer sous silence l'élément déclencheur de ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu des propos qui ont été tenus, qui ont complètement énervé une population qui était déjà tendue. Et donc, dans le cadre de nos échanges, parce qu'il est prévu que dès le retour de Madame la représentante, qu'il y ait une réunion élargie entre les deux parties, évidemment avec nos commandements militaires, pour être en mesure de discuter sur les questions opérationnelles et voir ce qu'il faut recentrer. L'idée ici pour nous, c'est de nous dire, il faut qu'on atteigne les objectifs de paix, qui est l'objectif principal. Et d'ailleurs, comme Kassim le disait tout à l'heure, il y a bien des chantiers sur lesquels le gouvernement, comme la MONUSCO, nous travaillons bien, où il y a des choses qui avancent, mais la raison principale de la présence de la MONUSCO, c'est la sécurité. Lorsqu'elle ne marche pas, on oublie ou parfois on ne voit pas ce qui se passe à côté, peut-être parce que on n'a pas assez communiqué dessus. Je pense que on en a convenu avec Kassim qu'il est important de communiquer aussi sur les autres aspects de la mission. Ce serait bien que le Congolais sache pleinement ce que nous faisons. Mais pour le reste, les revendications de notre population ont été prises en compte, et dans les cadres des diplomatiques, des discussions que nous avons à la fois avec la mission à Kinshasa ou avec le secrétaire général Guterres à New York, les discussions vont continuer.
Monsieur Kassim, on peut avoir une idée des nombres des casques bleus, du nombre des casques bleus présents dans la partie est de la RDC?
Oui, sur le Conseil de sécurité a autorisé, je dis bien, à peu près, je dirais, 13 500 casques bleus. Mais effectivement, sur place, vous avez 12 800 par là. Et il faut prendre en compte que aussi, c'est pas tous ces individus qui sont au combat. Une armée, c'est quand même une infrastructure, c'est la logistique, c'est des... c'est pas tous des soldats qui sont dans les combats. Donc il va falloir aussi opérer. Et ce qui me permet aussi de revenir un peu ce que le ministre disait tout à l'heure, il y a deux éléments ici. L'élément que, comme on l'a dit tous, on peut demander, on peut protester, c'est inscrit dans la Charte des Nations Unies des droits de l'homme, la libre expression des opinions, on peut le faire. Et il n'y a pas un jour qui passe où on ne reçoit pas des communautés pour discuter, la société civile. Donc il faut faire un distinguo entre ceux-là qui veulent discuter de façon constructive pour nous critiquer, pour nous demander de rectifier telle et telle chose, et ceux qui veulent piller. Voilà. Donc quand on aura opéré ces discussions, cette distinction, on passera maintenant à la phase où il faut communiquer. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une grosse incompréhension, une méconnaissance de ce que c'est que ce mandat. Je pense que, et comme l'a dit le ministre, nous devions aussi gagner avec notre partenaire de gouvernement à communiquer mieux ce que c'est que ce mandat, c'est-à-dire ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire.
Justement, en parlant du mandat de la MONUSCO, ça sera tout à l'heure après l'intervention de ces auditeurs qui sont très nombreux à appeler sur notre standard, ces auditeurs qui veulent aussi donner leur point de vue. Monsieur Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, on va prendre d'abord ces auditeurs pour vous.
Je suis assistant du Mikioma, je réside en ville de Beni. J'ai une question à poser au porte-parole du gouvernement. Pourquoi le gouvernement joue aux sapeurs-pompiers et semble soutenir ces manifestations? Je rappelle que nous sommes dans une province sous état de siège où toutes les manifestations ont été interdites. À chaque fois qu'il se prépare une manifestation, même de deux personnes, le gouvernement provincial déploie un effectif militaire très équipé partout, même s'il s'agit d'une manifestation de moindre importance ou de deux personnes. D'ailleurs, quelques jeunes, environ 12 militants de la lutte et autres jeunes activistes sont condamnés indignement pour avoir organisé une marche pacifique pour réclamer la fin du régime sui generis de l'état de siège. Tout cela s'est fait corroborer par les propos du président du Sénat lors de son récent séjour à Goma. Ensuite, nous avons vu des policiers et des militaires en liesse avec les manifestants en train de piller sans aucune réaction des contingences. Étonnant, les porte-parole du gouvernement fait sortir un discours contraste disant qu'on va arrêter les manifestants et les traduire devant la justice. À notre niveau, nous pensons qu'il faut arrêter le président du Sénat dont les faits prouvent bien qu'il est auteur intellectuel de ces manifestations. Ensuite, le gouvernement doit être sincère et écouter sa population au lieu de la sacrifier dans les rires tels que nous sommes en train de voir aujourd'hui, avec les bilans des morts et des blessés. La MONUSCO est en RDC sur invitation du gouvernement congolais. Il y revient donc au gouvernement, y compris le Parlement, de prendre les responsabilités en qui peuvent non seulement décider pour revisiter l'accord de siège sauf entre la RDC et la MONUSCO, et également décider définitivement sur son départ sur le sol congolais, comme on l'a vu au Mali où le régime militaire a décidé sur le sort du départ de la France.
Oui, mon Chabour, depuis la ville de Beni, en Nord Kivu. J'ai une question à poser au ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo continue à maintenir les forces onusiennes au pays alors que l'ancien président en fonction, Joseph Kabila, avait déjà sollicité dans une assemblée générale des Nations Unies le retrait de cette force multilatérale et a constaté sa défaillance sur le plan opérationnel à éradiquer les groupes armés qui sèment la terreur et la désolation à l'est du pays?
Monsieur le ministre, comment vous répondez à ces deux auditeurs qui nous ont appelés depuis Beni?
Alors, sur la deuxième question, il faut peut-être qu'on fasse un effort pour qu'on communique davantage. Depuis le mois de septembre dernier, nous avons signé avec la MONUSCO un plan de retrait qui a abouti il y a quelques semaines au retrait de la MONUSCO Academy dans le Tanganyika. Kassim, vous avez dit tout à l'heure qu'en 2021, ils ont fermé les opérations au Kassai, à Kinshasa et dans les provinces où ils étaient. Nous sommes dans un processus qui est progressif. Et donc aujourd'hui, même si nous sommes frustrés ou en colère du fait de la recrudescence des sécurités, du fait de voir que la MONUSCO ou les Nations Unies ne font pas assez pour mettre une situation qui perdure depuis bien longtemps, mais nous devons, nous, en tant que gouvernement, tenir à nos engagements. Et de ces points de vue, il y a un besoin aujourd'hui d'y rediscuter, parce qu'il y a des plaintes de part et d'autre. Au niveau de nos militaires, il y a aussi des plaintes sur comment ils s'engagent sur les terrains des opérations avec la MONUSCO. Nous avons besoin, à ces niveaux-là, d'avoir un dialogue. En même temps que nous avons ces dialogues, mais en même temps que nous avons un plan de retrait sur lequel nous travaillons avec des objectifs. Parce qu'il ne suffit pas de faire partir la MONUSCO, mais il suffit de regarder les compétences qui étaient les leurs, comment on organise le relais. Et donc nous sommes en train de le faire parce que les départs de la MONUSCO aujourd'hui ne signifient pas la fin des défis auxquels nous faisons face de manière conjointe. Autant nous, gouvernement, nous voulons pleinement assumer notre mission qui est celle d'assurer la sécurité de nos compatriotes, autant nous devons être sûrs que nous avons tenu ces engagements, nos engagements de ces points de vue. C'est dans cet ordre d'ailleurs que nous avons adopté un budget programme pour l'armée, parce que pour faire face à toutes ces situations, nous devons être en mesure de renforcer, de rendre notre armée plus puissante. La montée en puissance est en cours et nous espérons que dans les jours qui viennent, cela sera fait. C'est aussi à travers les manifestations, le message que nous captons, c'est que la communauté internationale que nous considérons comme responsable ou co-responsable de la situation en République démocratique du Congo. Parce que si nous devons faire un backup dans l'histoire, nous allons voir quand c'est en 94 que toutes ces histoires ont commencé avec le malheureux génocide de Rwanda et les corollaires qu'il y a ici. Nous avons payé les prix les plus lourds, il y a deux chefs d'État qui sont morts, il y a des millions de Congolais qui sont morts. Nous pensons aujourd'hui que la communauté internationale peut faire davantage en brisant toute forme d'hypocrisie. Madame Kelly, on ne les dit peut-être pas assez, mais toutes ces violences, pour la plupart, se passent dans un patrimoine protégé, Virunga. Et donc, Virunga, je veux bien comprendre qu'on veuille prendre soin de l'environnement, je veux bien comprendre qu'on se soucie de la vie des gorilles, mais je ne peux pas comprendre qu'on ne veuille pas se soucier de l'humain qui est quand même l'élément principal qui peut protéger cet écosystème. Et donc, nous pensons aujourd'hui, à travers notre stratégie, que si nous réglons durablement, une fois pour toutes cette fois-ci, nous espérons que ce sera la dernière fois, ces problèmes d'insécurité, nous serons en mesure autant de mieux protéger notre climat, autant de mieux veiller sur nos gorilles, parce que lorsqu'il y a de bruit des bottes, le gorille vont dans la partie voisine et c'est la partie voisine qui en tire profit.
Alors brièvement, à la première question de l'auditeur.
Je vais y revenir. À la première question des auditeurs, d'abord ici, il faut faire la démarcation. Nous sommes dans un contexte démocratique où quotidiennement, nous comme gouvernement, nous essuyons des critiques. La mission des Nations Unies au Congo, en ses titres, c'est tout à fait normal qu'elle soit critiquée. Mais ici, il faut faire la distance entre des critiques qui sont fondées sur des raisons précises et un appel à la violence. Il faut faire les distinguos. Et donc, on va faire des enquêtes qui vont nous permettre d'avoir le plus grand nombre d'éléments sur ceux qui sont responsables des actes de violence. Parce qu'ici, la manifestation, elle a été interdite, mais il y a eu un forcing, il y a eu des choses qui auraient pu être faites pour contenir qui n'ont pas été faites, on va établir les différentes responsabilités. Mais ici, il faut éviter tout amalgame en disant que c'est parce que tel a critiqué, même nous, au niveau du gouvernement. Nous avons critiqué la MONUSCO pour des sorties que nous avons considérées comme maladroites, qui ont sémé la confusion. Entre partenaires, cela peut arriver, mais cela ne doit pas servir de prétexte pour que on disait qu'à Boutembo, personne ne pouvait penser que ces jours-là, Boutembo s'éveillerait, que des gens de Mai Mai s'infiltreraient dans les groupes de manifestants et iraient directement tirer sur les casques bleus. Vous voyez que lorsqu'il y a ces mouvements de masse, ça crée la confusion et ce n'est pas de nature à favoriser la quiétude. Et donc, pour nous, aujourd'hui, comme gouvernement, nous tirons évidemment les conséquences de les attaquer. C'est pour ça que nous avons lancé des appels à l'apaisement. Et c'est pour ça qu'on a multiplié les dispositifs de sécurité sur tous les sites de la MONUSCO dans le pays. parce qu'on parlait des sakés, on parlait de Mubambiro, pour éviter que des récupérateurs... Ici, l'ennemi, je termine par là, Madame Kelly, l'ennemi, c'est la M23. L'ennemi, ce n'est pas la MONUSCO. Si nous nous acharnons sur la MONUSCO, c'est parce que nous pensons que la MONUSCO peut avoir plus d'appui à nous accorder pour mettre fin à cet ennemi commun. Et donc, il ne faudrait pas que les manipulateurs puissent saisir ces mouvements pour donner l'impression que la MONUSCO est devenue notre ennemi. En tout cas, pour ça, le gouvernement ne sera pas du tout derrière d'aucune manière.
Monsieur Kassim, on va prendre aussi pour vous deux autres auditeurs qui nous appellent de Sud-Kivu et de Bounia, dans la province de l'Ituri.
Minos Amundala, depuis la ville de Bounia. La manifestation est garantie par la Constitution, une façon par laquelle le peuple s'exprime. Malheureusement, il y a eu dérapage alors que cette manifestation était au préalable interdite. Je voulais ici soulever le processus de retrait qui est lié aux objectifs qui doivent être évalués à long terme, alors que Venise les a totalisés à l'Est. Avec quelle évaluation dans le contexte où la situation dans cette partie de la RD Congo demeure irrésolu? Et comment alors espérer à la réalisation de la mission de la paix lorsque la population n'arrive pas à parler le même langage avec la mission? De toutes les façons, la paix et la sécurité est un droit garanti par la Constitution en son article 52. Au cas contraire, ce sera à l'État congolais et au peuple d'en tirer toutes les conséquences au finish.
Je suis Valé Chebujongo depuis le territoire de Kalehe. Au Sud Kivu, je suis activiste des droits de l'homme. La République démocratique du Congo avait moins de 8 groupes armés avant l'arrivée de la MONUSCO. Depuis que la MONUSCO est en République démocratique du Congo, aujourd'hui nous sommes à plus de 110 groupes armés. Et le rapport qui est sorti d'une organisation du Nord Kivu qui a énuméré 122 groupes armés actifs. Alors la question qu'on se pose, la MONUSCO, cette munition onusienne, est-il à l'origine ou a participé à la prolifération des groupes armés, plus particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo?
Monsieur Kassim Diagne.
Oui, merci beaucoup. Je remercie les auditeurs, les intervenants qui ont posé ces questions. Je pense que le premier intervenant, je pense qu'il faisait plutôt un commentaire que j'accueille avec joie, et je crois qu'il a fait une proposition assez intéressante. J'aimerais tout simplement lui dire, comme le disait le ministre...
Il a parlé de la collaboration entre la mission et la population.
Oui, justement.
Est-ce que vous allez continuer à travailler dans ce milieu hostile?
Absolument, 100%. Je pense qu'il ne faudrait pas, comme je le disais tout à l'heure, prêter le flanc à l'ennemi, parce que tout simplement, effectivement, moi je vois une réelle volonté de ces groupes de casser... le tissu social, non, il faudrait... Nos relations sont endommagées, il y a un déficit de confiance, comme le disait le ministre, on l'a répété, peut-être que nous devions communiquer plus. Et là, ensemble, avec les collaborateurs, avec sous la facilitation, le leadership de Mme Keïta, nous allons réfléchir à comment accentuer. Vous savez, vous êtes à Okapi, vous circulez dans les zones d'opération, vous savez qu'on a la plus grande partie de nos employés, ce sont les assistants communautaires, les assistants de liaison. Ils sont plus d'une centaine, et des Congolais et Congolaises qui travaillent dans les communautés. Allez-y les voir. Donc nous allons peut-être mettre un accent particulier sur ce volet de notre travail, parce que ce sont ces gens qui sont en contact avec la population. Évidemment, dans le psyché social... l'entendement populaire, on voit les casques bleus. Bon, c'est vrai, ce sont ces militaires sur des blindés, etc., les avions, voilà. Donc il va falloir travailler sur ce volet-là. Nous allons continuer, nous n'allons pas baisser la garde, parce qu'encore une fois, ce que l'ennemi cherche, c'est de nous diviser, non seulement avec les autorités, mais avec la population, pour nous forcer à la faute. Et ça, on ne va pas le faire. Alors, le deuxième auditeur concernant... Moi, j'étais pas là. Quand il disait qu'avant l'arrivée de la MONUSCO, il y avait 8 groupes armés. Bon, c'était peut-être avant 1999. Voilà. Mais bon, je concède. Mais pour dire simplement que ce serait vraiment ridicule pour nous de créer des groupes armés. Je veux dire, on est venu ici pour la paix. Les Nations Unies, c'est la paix. D'ailleurs, je rappelle que la RDC fait partie des Nations Unies, de la communauté internationale, et c'est eux qui nous qui nous guide dans ce que nous faisons. Donc dire qu'on est en collusion avec les groupes armés, c'est vraiment ne pas comprendre la Charte des Nations Unies ou la doctrine des missions de maintien de la paix.
Alors, parlons brièvement de ce plan de retrait progressif, Monsieur Kassim, méconnu de la population. La population ne sait pas de quoi il s'agit. Le ministre l'a dit, il faut communiquer, beaucoup communiquer sur ça pour que les gens comprennent. Qu'est-ce que ce plan prévoit, très brièvement?
Très brièvement, ce plan conjointement élaboré avec le gouvernement prévoit 18 jalons, des jalons de progrès et d'indicateurs de progrès. Je prends un exemple tout simple. En matière de DDR, le plan dit d'ici l'horizon 2022, à la fin de l'année, on doit pouvoir arriver. D'abord, le plan dit qu'il faut un cadre national. Et là, je félicite le gouvernement parce que le président a pris tout de suite les devants. Et il y a un plan national DDR qui a été approuvé par le chef de l'État. Ce plan dit qu'il faut des plans provinciaux de mise en œuvre qui envisagent qu'il y aurait X nombre de combattants qui se seront rendus et qui seront intégrés dans les communautés. Le plan nous dit qu'il faut qu'il y ait des bases des FRDC dans les zones qui auraient été conquises ou en tout cas libérées de l'ennemi. C'est en cours. Et vous allez aujourd'hui dans beaucoup d'endroits du territoire de Béni, vous avez des FRDC, vous n'avez plus la MONUSCO dans ces endroits-là. Donc, il y a des choses très pratiques dans le plan. Peut-être que même à travers vos médiums, Radio Okapi, toutes les radios, les journalistes, etc., il nous faudrait arriver peut-être même à traduire ce plan qui est disponible sur le site du Conseil de sécurité en swahili, en lingala, dans les langues pour que les gens comprennent.
Alors, le souci de la population aujourd'hui, c'est de savoir, la MONUSCO se retire quand? Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans?
C'est ça le danger, Madame Kelly. Vous mettez une date sur un plan, je vous assure que vous allez vous étrangler au goulot. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que si vous arrivez à faire du progrès sur ce plan-là, vous fermez une à une les robinets. C'est comme ça. Mais dire, bon, évidemment, si le gouvernement le souhaite, une date peut être donnée. Mais là, vous allez vous étrangler. Parce que si vous ne parvenez pas à cette date de réaliser ces objectifs, vous serez irresponsable. Et je pense que du côté du gouvernement, du côté de la MONUSCO, nous sommes quand même des institutions responsables. Donc, c'est ça peut-être qui fait la frustration. Les gens voient l'horizon temps. Non. Un plan, c'est un cheminement. C'est une progression par rapport à des indicateurs que vous aurez agréés. À moins que je me trompe, mais je crois que c'est ce qu'on m'a appris en planification.
Monsieur Patrick Mouyaya, y a-t-il des conditions pour que la MONUSCO puisse se retirer de la RDC?
Bon, écoutez, les conditions, c'est justement celles que nous avons définies dans les plans. Parce qu'il faut rappeler le contexte dans lequel la mission est arrivée en République démocratique du Congo, le progrès qui a été fait. Et les restants, on a eu beaucoup de progrès depuis 1999, parce qu'on a eu, aujourd'hui nous allons vers le 4e processus électoral. Les 3 premiers processus électoraux ont toujours bénéficié de l'accompagnement de la division électorale de la MONUSCO. Ici, nous pensons qu'avec les gouvernements du Premier ministre Amadou Koné, nous réunissons les conditions qui vont faciliter le départ de la MONUSCO. Parce qu'il ne faudrait pas que la MONUSCO reparte et que le lendemain nous ayons des problèmes. Ceci dit, je suis en train de travailler d'ailleurs avec les équipes de M. Boulirac pour que nous puissions étoffer le plan de communication. C'est dans cet ordre d'ailleurs que nous avions fait une communication avec Mme Keïta le 30 décembre de l'année dernière. Et nous pensons que nous devons faire davantage, y compris Radio Capi, parce que lorsqu'on parle de la fermeture de la mission, on parle aussi un peu de votre fermeture. Bon, nous serons heureux de vous récupérer, pour continuer ces travaux de sensibilisation. Mais il y a un besoin de réajuster un certain nombre de programmes, dans Radio Capi compris, pour consacrer de temps à l'explication de ces plans, à l'explication du travail qui est fait, pour que nos populations comprennent qu'au-delà du travail des sécurités qui est la mission principale, il y a d'autres tâches dans lesquelles les Nations Unies sont précieuses pour le gouvernement de la République démocratique du Congo.
Monsieur Kassim Diagne, il est peut-être temps d'éclairer la lanterne des auditeurs, de ces nombreux Congolais qui nous suivent en ce moment sur le mandat de la MONUSCO. Qu'est-ce que la mission peut faire dans le cadre de son mandat et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire?
Alors, le mandat, il est il a deux axes principaux dans un contexte de soutien au gouvernement congolais. Le premier axe, c'est accompagner les forces de défense et sécurité nationale, les autorités congolaises, à mettre en place des systèmes de sécurité pour la protection des civils. Deuxièmement, accompagner ces mêmes autorités à la stabilisation des zones autrefois occupées par les groupes armés. Sur l'axe protection des civils, je vous donne un exemple. Lorsque le M23 a attaqué, on s'est convenu, dans le cadre du mandat de protection des civils, de dire aux forces armées congolaises, vous vous mettez en avant, vous combattez, on vous accompagne, on vous appuie, mais on assure vos défenses, vos positions défensives, c'est-à-dire on va faire des patrouilles, on va occuper des zones qui mènent d'accès ou des concentrations de population pour protéger ces populations-là. Voilà un exemple concret de protection des civils, parce que ça, c'est le mandat premier. En soutenant les FRDC, on leur permet quand même de dégager ou bien d'avoir cette liberté de mouvement, de pouvoir faire les opérations offensives, et nous, on assure les derrière. Et c'est le même dispositif qui est là.
C'est ce qui est fait sur terrain.
Absolument, c'est très clair. Vous pouvez aller vérifier. On est là, ils le savent, les FRDC, on travaille ensemble. Et d'ailleurs, sur le terrain, la communication passe très bien. C'est peut-être à un niveau que nous ne maîtrisons pas, où il y a confusion. Ensuite, la stabilité. Dès que ces opérations sont menées, les FRDC viennent, occupent les positions autrefois de façon conjointe ou unilatérale qui ont été libérées, et l'institution gouvernementale se met en place. Les administrateurs de territoire, l'auditeur militaire, les enquêtes, la police, etc. Donc, c'est une progression sur deux actes, et ces axes sont très très clairs. Je pense qu'il faudrait voir ça dans cette optique. Maintenant, y ajouter d'autres choses, il y a des choses peut-être connexes, mais voilà les deux principaux axes sur lesquels nous travaillons dans toute la mission.
Monsieur le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qu'est-ce que la population congolaise ne doit pas attendre de la MONUSCO?
Madame Kelly, écoutez, la population congolaise doit attendre de son gouvernement. Et depuis que le président de la République a pris ses fonctions, vous avez vu qu'il s'est déployé dans une stratégie diplomatique pour promouvoir la paix, y compris avec les pays avec lesquels on a des relations difficiles, notamment le Rwanda. Fort malheureusement, les causes qui avaient empoisonné nos rapports ont refait surface. Mais depuis que cette question a commencé, nous sommes sur quatre fronts. Le front diplomatique qui a progressé sensiblement. Le front militaire où on observe un cessez-le-feu, le front judiciaire parce qu'il faut qu'il y ait des sanctions, des écoles ont été bombardées, des enfants ont été tués, de milliers de populations sont déplacées, cela ne devrait pas rester impuni, et le front médiatique c'est celui que nous tenons. Il faut considérer ici que nous, gouvernement, nous sommes revêtus du mandat populaire, pas la MONUSCO. Nous allons faire de notre mieux avec les ressources qui sont disponibles pour rassurer la montée en puissance de nos forces armées. Et d'ailleurs, avant de venir ici, nous étions avec le président de la République qui a lancé aujourd'hui, qui a assisté au lancement des appels d'offres pour des blocs pétroliers gazés, pour lequel je vois naître une fausse polémique, parce que nous parlons de mettre en valeur nos blocs pétroliers, nos gisements, on nous dit ne les faites pas, parce que vous allez détruire l'environnement. Ici, je dois rappeler que le Congo est un pays solution. Pour les Congolais, doit être d'abord un pays solution pour le Congolais, avant d'être un pays solution pour le monde. Nos engagements, notamment en matière environnementaux, on ne les a pas imposés. Nous les faisons de conviction. Mais lorsque nous faisons le choix de mettre en valeur nos gisements, y compris pétroliers, il ne faut pas qu'on nous oppose l'obligation absolue de tenir compte des impératifs environnementaux et ne pas le faire. Et pourtant, dans les conditions telles que techniques prévues pour le faire, les normes environnementales seront respectées conformément à nos responsabilités. Pourquoi nous voulons le faire? Parce qu'avec ce qui se passe, nous avons encore une fois de plus compris que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes et sur nos ressources. Et donc, si le monde veut que nous puissions n'est pas toucher à nos blocs pétroliers, n'est pas toucher aux sites situés dans le parc de Virunga, le monde devrait nous aider davantage pour régler les problèmes de sécurité et nous donner des compensations en termes des ressources pour régler les problèmes de nos populations. C'est ça le travail du gouvernement et c'est sur quoi le Congolais nous attend.
Bon, vous n'avez pas répondu clairement à ma question, monsieur
mais
Patrick Bayano.
Mais qu'est-ce qu'on ne devrait pas attendre de la...
Je vous ai répondu. De la MONUSCO.
Non, mais écoutez,
la sécurité première revient au gouvernement congolais,
mais
la sécurité
sûr,
de
bien
Congolais.
Bien sûr, la MONUSCO vient en appui aujourd'hui, c'est le devoir, c'est l'obligation du gouvernement. C'est pour ça que nous devons, nous, diversifier nos ressources, avoir... La MONUSCO n'est pas revêtue d'un mandat populaire. C'est nous qui sommes revêtus d'un mandat populaire et donc nous ne pouvons pas nous dédouaner par rapport à notre responsabilité principale. Nous attendons de la MONUSCO un appui spécifié dans le cadre de l'accord, mais ce n'est pas seulement sur ça que nous devons nous appuyer pour régler les problèmes de notre peuple.
Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Monsieur Kassim, ce sera votre conclusion. Qu'est-ce qui doit être fait pour que pareille incompréhension, pareille violence ne se reproduise plus jamais?
D'abord, je pense qu'il y a trois points pour moi essentiels en conclusion. Le premier, c'est rassurer la population, rassurer nos partenaires, que ce soit du côté du gouvernement ou nos partenaires de la société civile, que nous sommes sur le départ. Il faudrait être très clair dessus et pour ça, nous avons un plan concret agréé avec les autorités. Deuxièmement, ne jouons pas le jeu de l'ennemi. C'est une distraction, et une distraction qui peut coûter très cher, parce qu'aujourd'hui, on est en train de dépeupler des forces qui devaient combattre l'ennemi sur le terrain, pas à Goma. Et aujourd'hui, attention, on fait le glissement sur quelque chose de très dangereux, parce que tout simplement, on a une distraction. Et troisièmement, la violence n'est pas la solution. Parce que comment voulez-vous, Madame Kelly, à qui on va parler parmi ces gens surexcités? On ne va pas pouvoir parler à des excités. On parle à des humains, on parle à des gens raisonnables. Donc retrouvons nos esprits, j'en appelle à la retenue. On peut être critiqué, comme l'a dit Patrick, nous sommes les premiers à reconnaître nos défaillances à l'interne. Et il y a des évaluations qui ont été faites, qui sont disponibles, etc. Donc voilà mes messages aujourd'hui, pour dire que nous sommes ici, nous n'avons aucun agenda. Notre seul agenda, c'est le retour à la paix et à la sécurité de la RDC.
Monsieur Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, ministre de la Communication et Médias, quelles sont les leçons à tirer de ces événements? Comment éviter à l'avenir ce genre de situation?
La première leçon à tirer, je crois qu'il faut qu'on améliore sensiblement, que ce soit sur le terrain politique ou les terrains opérationnels ou même le terrain communication, la collaboration avec la MONUSCO. Parce que tout est parti des propos qui ont été dits et qui n'ont pas été bien perçus, ni par les militaires, ni par nous, ni par la population, et il y a eu cette réaction. C'est la première conséquence que nous devons tirer. La deuxième conséquence qu'il faut tirer, c'est qu'il ne faut jamais recourir à la violence. Lorsque vous recourez à la violence, vous risquez même de perdre la cause principale. C'est pour ça que nous avons réitéré notre appel au calme. Nous avons invité les uns et les autres à s'apaiser. D'ailleurs, il y a une mission gouvernementale qui partira dans la région parce qu'il faut continuer des discussions avec la société civile. Nous sommes heureux de voir que ce soit l'Église catholique, l'Église protestante et d'autres leaders d'opinion ont pris les devants après le gouvernement pour condamner ce qui s'est passé et en appeler au calme. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons nous focaliser sur l'objectif essentiel ici, qui est l'ennemi du M23, parce qu'il est question que Bunagana puisse être récupéré, que nos populations déplacées puissent revenir dans leurs lieux habituels. Il faut faire confiance au gouvernement et au président de la République dans le cadre de la stratégie mise en place pour mettre fin à cette situation d'insécurité, mais aussi pour régler les problèmes à la fois socio-économiques qui rendent la situation encore plus complexe. De ce point de vue, nous ne lésinerons pas.
Merci, Monsieur Patrick Muyaya Katemboué. Merci, Monsieur Kassim Ndiam. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Donna Madimba, Martin Seboujangwe, Étienne Rougerie. Merci également à l'équipe technique et vidéo de Radio Okapi, Paul Badianyama, Dieudonné Nyangasap et Jonathan Fouanani. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.